Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry. Halud Mambi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Quelle analyse la situation politique du Mali en 2018, à quoi faut-il s'attendre en 2019 et comment y faire face? Ce sont les questions, les principales qui vont être posées au cours de ce grand dialogue. Nous avons trois invités pour répondre à ces questions. Député Bajan Ag Hamatou, membre de la majorité, Nouhoum Sar, membre de l'opposition, et Balan Diakité, politologue au Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale, CRAPES. Je suis Mohamedou Touré, chers invités, chers auditeurs et téléspectateurs, bonsoir et bienvenue.
Le grand dialogue.
À vous d'abord, Nouhoum Sar. Comment analysez-vous la situation politique du Mali en 2018?
Merci beaucoup, Monsieur Touré. Vous savez mieux que moi que la situation politique de notre pays en 2018 a été caractérisée par des élections frauduleuses, par le fait qu'un homme et son clan se sont accrochés au pouvoir de façon illégitime, par une falsification éhontée des résultats du scrutin que notre pays a connu. 2018 a été caractérisé par un arrêté du gouverneur manifestement illégal qui remet en cause les acquis de notre démocratie, qui viole notre constitution et qui cherche à mettre notre pays, à faire rentrer notre pays dans le cercle fermé des États voyous. En 2018, nous avons vu des milices dans le centre et dans le nord de notre pays, adoubées et encouragées par le pouvoir illégitime en place, qui ont décimé des villages, qui ont détruit des vies, qui ont violé des femmes et qui se sont empris à l'unité nationale, au peu qui reste de notre unité nationale. En 2018, Monsieur Touré, nous avons vu des hommes politiques enlevés, séquestrés, torturés, tabassés et violés dans leur intimité. En 2018, l'économie de notre pays a connu la pire tension de trésorerie, la pire tension financière que nous n'avons jamais connue. En 2018, l'Assemblée nationale du Mali a été transformée en bourse, en marché où se vend, se négocie et s'achètent les députés. 2018 a fait passer notre pays dans le camp des pays où la transhumance politique est devenue la norme. Donc un seul mot pour caractériser notre situation politique, c'est le chaos, c'est la dénégation des principes démocratiques, c'est la dénégation de la démocratie.
Monsieur le député Bajan, que pensez-vous de ce que vient dire tout de suite Nouhoum Sar?
Bon, j'ai entendu mon parent de l'opposition qui a donné tous ses qualificatifs à ce que nous avons vécu en 2018. En 2018, moi, député de Menaka, ce que je sais de 2018, c'est que dans le domaine de la sécurité, que notre pays vivait depuis plus de 10 ans, parce que bien avant le déclenchement de la rébellion, il y avait ce phénomène de l'insécurité au nord du Mali. Jusqu'à la rébellion, qui a emporté une situation qui a emporté les 2/3 de notre pays. Donc je reconnais qu'en 2018, notre pays retrouve, et de façon continue, sa sécurité, sa stabilité, son unité.
Est-ce que c'est Menaka qui retrouve sa
stabilité? Ce n'est pas Menaka, c'est tout le nord du Mali. C'est tout le nord du Mali.
Le nord du Mali, mais pas le Mali de façon
générale. Tout le nord du Mali retrouve, ça n'empêche pas qu'il y ait des problèmes d'insécurité. Okay. L'insécurité, c'est un phénomène que nous vivons dans le monde entier vit aujourd'hui. Le terrorisme international, celui qui veut faire semblant de ne pas d'ignorer qu'il existe le terrorisme mondial qui est en train de frapper tous les pays du monde, y compris les États-Unis, les grandes puissances, la France, l'Allemagne, la Russie, la Chine, tous les pays du monde vivent ce phénomène de terrorisme. Celui qui veut faire semblant d'ignorer l'existence de ce phénomène mondial, bon, tant pis pour lui.
D'accord. Moi, je crois, pour mieux comprendre, vous avez parlé de Menaka et du nord du Mali, mais quand on prend le Mali de façon générale, est-ce que le pays s'est stabilisé
Le pays est en train de se stabiliser. La preuve, c'est que nous avons organisé des élections dans tous les pays, y compris dans les coins les plus reculés du nord du Mali. Et partout, il y a eu les élections. Auquel on ne pouvait pas prétendre avant. Et il a fallu la façon dont l'État s'est organisé, la façon dont l'État a pu toucher toutes les populations, y compris les mouvements armés, qui ont aidé. Après l'accord du processus d'Alger, qui ont aidé à ce qu'il y ait les élections. Les élections sont passées partout. Ceux qui disent que c'est de la fraude, bon, de toutes les élections que nous avons connues, on a toujours dit que c'est de la fraude. Et ce n'est pas seulement propre au Mali.
Vous reconnaissez qu'il y a eu une fraude, mais vous pensez...
Reconnais aucune fraude.
Okay.
Je ne reconnais aucune fraude. Mm-hmm. Je ne reconnais aucune fraude.
D'accord.
Ceux qui disent qu'il y a eu la fraude, on a même parlé de Menaka dans la fraude. Mm-hmm. Moi, j'ai eu même à dire à ceux qui m'ont appelé, mais écoutez, en 2002, nous avons voté à Menaka pour le candidat de l'ADEMA. À l'époque, c'était Soumaïla Cissé. Et le même score que nous avons fait pour Ibrahim Boubacar Keïta, aux dernières élections, nous l'avions fait à l'époque pour Soumaïla Cissé. Mon camarade peut lui poser la question.
D'accord, je vais revenir toujours sur...
On a fait le même score et pourtant il n'a pas crié fraude. Oui. Moi, je crois que les élections se sont bien passées.
Oui, je vais revenir sur la situation sécuritaire quand vous dites que le pays s'est stabilisé parce qu'il y a eu des élections qui se sont tenues, toute l'étendue du territoire. Oui. Mais aujourd'hui, on voit que même au lendemain des élections, il y a eu des attaques. Et récemment, il y a eu 37 attaques, morts au centre du pays. Est-ce que vous pensez que c'est une stabilisation?
Il y a des attaques. Il y a des attaques et certainement que les attaques vont...
Des conflits intercommunautaires.
Il y a des conflits intercommunautaires qui sont dus à tout ce qui s'est passé pendant plus de 5 ou 6 ans. C'est ce qui a créé des problèmes entre les populations. Mais ça n'empêche pas que l'autorité, l'État est là, dans le cercle, dans la région de Menaka, le gouverneur est là, les préfets sont là, tout le monde est là, bien qu'il y a des attaques. Les attaques, on les trouve partout. Partout en France, il y a des attaques. Partout au monde, il y a des attaques.
D'accord.
Tant qu'il y a le terrorisme, et tant que le monde entier n'a pas fini avec ce terrorisme, mais écoutez, il va y avoir des attaques. Mais ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est qu'en 2018, on a eu une opposition qui n'a pas aidé à lutter contre le phénomène que vit notre pays.
D'accord, Balandia Kité, vous venez d'écouter tout de suite l'avis de l'opposition et celui de la majorité. Que pensez-vous de cette situation en tant que politologue?
Alors, je dirais tout simplement que la raison d'être déjà d'un État, c'est d'abord d'assurer la sécurité, d'assurer la stabilité, la paix et surtout la liberté, parce que pour un citoyen, le bien le plus précieux, c'est la liberté. Mais la liberté ne peut pas s'exercer effectivement lorsqu'il n'y a pas de sécurité. Et en 2018, justement, ce qui a caractérisé la situation politique au Mali, dans notre pays, c'est surtout l'absence de sécurité, tant au nord, tant au sud, parce qu'on n'en parle pas assez. Mais même au sud, il y a de ces endroits, effectivement, on ne peut pas se promener pendant la nuit
librement.
Et donc, il faut revenir sur cette question de sécurité, parce que sans la sécurité, rien n'est possible. Mais la question du conflit intercommunautaire, c'est ce qui a surtout attiré mon attention durant l'année qui vient de s'écouler. Ça, c'est un problème très, très grave. Et on a l'impression que nos autorités, enfin, et les autorités et les citoyens ne prennent pas vraiment conscience de la hauteur de la gravité justement de cette crise intercommunautaire. On l'a vu ce qui s'est passé au Rwanda, l'histoire nous l'apprend. On a vu ce qui s'est passé effectivement en Centrafrique quand des citoyens s'élèvent avec des machettes pour commencer à s'entretuer, tout simplement parce que vous êtes d'une ethnie qui n'est pas la mienne, ça pose vraiment un problème très très inquiétant dans une société. Et nos autorités ont effectivement tout intérêt à faire face à ce problème pour que ça ne puisse pas se dégénérer sur d'autres régions du Mali. D'autant plus que le centre, vraiment, si l'on continue comme ça, nous sommes dans une situation qui va nous conduire justement à perdre et le nord et le centre du pays.
D'accord. Je vais revenir un peu sur ce qui a été dénoncé par l'opposition en 2018 et ce qui a été dénoncé également par la majorité. Élections frauduleuses, arrêté du gouverneur qui viole la Constitution, insécurité, enlèvement, économie fragile, Assemblée nationale transformée, des députés qui auraient été achetés, un chaos total, résume le représentant de l'opposition, et le représentant de la majorité qui estime que l'opposition n'a pas joué son rôle, qui serait d'aider également le pouvoir à mettre fin à tous ces problèmes.
Alors pour moi, je pense que dans une démocratie, il faut s'entendre sur la notion des choses, la définition des notions. Une démocratie, ce n'est pas un consensus. Une démocratie suppose justement l'existence d'une opposition. Que serait une démocratie s'il n'y a pas une opposition? Et l'opposition, c'est vrai que lorsque nous sommes en face d'une situation de crise, l'opposition doit aider justement le gouvernement dans une certaine mesure. Je dis bien dans une certaine mesure. Elle n'a pas l'obligation d'aider le gouvernement. C'est eux qui sont effectivement à la commande. C'est eux qui ont justement entre les mains le budget de l'État, le trésor. C'est eux qui ont entre les mains l'administration. Ils ont entre les mains les forces armées. Autrement dit, ils ont entre les mains les moyens qu'il faut justement pour agir en tant qu'autorité publique au nom de l'ensemble de la collectivité sociale. Et l'opposition est là justement non seulement pour contrôler l'action du gouvernement, mais aussi vérifier si toutefois il n'y a pas justement des failles dans l'exécution dans l'exécution de leur programme, ou si toutefois il n'y a pas empiètement sur les droits et les libertés d'une partie de la société. Et donc à ce niveau, je pense que l'opposition malienne, c'est pas pour prendre parti, mais je trouve qu'ils étaient dans leur plein droit de critiquer quand ça n'allait pas, de proposer quand il fallait proposer justement, et de se rallier au gouvernement quand il le fallait. Il y a eu des réunions où l'opposition a pris parti, quand même, ça on ne peut pas le nier, en 2018. Donc quelque part, ils ont contribué. Peut-être que leur contribution aux yeux de la majorité n'était pas assez, mais ils ont contribué. Mais encore une fois, il ne faut pas que la majorité s'attende à ce que l'opposition leur aide. Ils ont dans leur droit de critiquer, mais aussi de proposer quand ils le font.
Quand l'opposition juge le bilan 2018 chaotique, est-ce que vous partagez cet avis?
Chaotique, je dirais chaotique sur le plan sécuritaire. Sur le plan sécuritaire, effectivement, c'était chaotique. Sur le plan diplomatique, le gouvernement a fait des efforts sur le plan diplomatique. La mise en place, justement, de ce dispositif sécuritaire qu'on a appelé le G5 Sahel, qui a été mis en place, effectivement, sous le leadership de notre président, ça, on ne peut pas le nier. D'accord. Et donc, sur un certain nombre d'aspects, il y a eu des avancées, d'accord. Mais sur d'autres aspects, effectivement, ça reste beaucoup à faire. Parce qu'en 2018 également, ça on ne peut pas le nier, il faut dire que presque toutes les couches socio-professionnelles sont parties en grève dans ce pays. Chose qui est du jamais vu. D'accord. Presque toutes les couches socio-professionnelles. Là, franchement, on s'est dit que le gouvernement, quelque part, ils sont en incapacité de dialogue avec les couches socio-professionnelles. Là, vraiment, ça mérite justement que l'on se pose des questions. Donc, le gouvernement doit faire des efforts à ce niveau, rentrer en contact avec la société quand il le faut. Ça ne sert à rien de rester positionné sur sa position dans une attitude d'arrogance. Ça n'arrange rien. citoyens, le gouvernement est là pour servir la société. Et nous, les citoyens, nous avons voté effectivement pour eux, pour le mettre là, pour qu'il puisse justement rendre service à nous. Mais si après, on constate que rien ne va, mais il n'y a pas d'effort pour maintenir le dialogue, il n'y a pas d'effort pour résoudre les problèmes, et que de jour en jour, les grèves s'enchaînent, vraiment, c'est quelque chose qui est inquiétant. Surtout que sur le plan économique, les grèves, ça a des conséquences non moins négligeables.
D'accord, nous allons partir étape par étape. Nous allons parler d'élections et d'arrêtés du gouverneur qui violerait la Constitution, selon vous. Alors, justifiez ces deux termes.
Bon, c'est important. Je crois que M. Bajan est le seul à penser dans notre pays que la situation sécuritaire va bien. Elle s'est améliorée. Les Nations Unies.
Parlons d'élections, parlons d'élections et de l'arrêté d'abord.
L'important que l'on
étape par étape, on va parler de l'insécurité tout de suite. On va parler de sécurité.
Si vous permettez,
honorable Bajan, on va le laisser terminer. Vous aurez la parole.
Si vous permettez, les Nations Unies, dans leur rapport, dernier rapport, ont indiqué que la situation sécuritaire du Mali s'est empirée. Et ils ont indiqué. Ils ont mis en doute la capacité des responsables de 2018 à régler ces problèmes. Ce n'est pas un secret. C'est écrit noir sur blanc dans le rapport des Nations Unies. L'arrêté du gouverneur. Vous savez, dans notre pays, le peuple souverain du Mali en 1991 a souscrit à la démocratie de façon exclusive. Et la démocratie suppose le respect des textes républicains, le respect de la Constitution. Et dans cette constitution, la liberté de manifester est garantie. C'est une pierre angulaire de notre constitution. Mais quand un gouverneur, un militaire, mais un très mauvais militaire, parce que le militaire, c'est d'abord le respect des normes, le respect des principes, prend un arrêté interdisant, au nom de quoi, je ne sais, à l'opposition politique, aux forces vives de la nation, de manifester pacifiquement dans certaines artères de Bamako, eh bien, vous conviendrez avec moi que c'est encore une fois la dénégation de la démocratie, c'est la dénégation de la Constitution, c'est la violation d'un principe fondamental qui est la liberté de manifester dans notre pays. Je ne suis pas le seul à le dire. Plusieurs experts ont passé ici et ont indiqué que le gouverneur, dans son arrêté, a violé la Constitution de la République. La charte des partis politiques a été violée. Il l'a foulée aux pieds. Face à cela, nous n'avons que d'autre choix. Nous résisterons et nous continuons à le faire. Donc, plus personne n'a besoin de démontrer que le gouverneur a violé, l'arrêté viole la Constitution. Maintenant, vous en avez évoqué ici que l'opposition n'a pas aidé en 2018. Soyons sérieux. Quand la digue que constitue le centre de notre pays a commencé à rompre, nous avons adressé plusieurs courriers à M. Ibrahim Boubacar Keïta, qui en 2018 était un président légitime. Nous l'avons adressé plusieurs courriers pour lui dire que la digue que représente le centre est en train de rompre et que le moment est venu que l'ensemble des forces politiques se retrouvent pour trouver une solution à la crise dans le centre. Mais qu'est-ce que nous avons vu ? Nous avons vu que les milices ont pilulé un peu partout. Qu'est-ce que nous avons vu ? Nous avons vu des dozos, des gens manipulés, formés et entretenus par les tenants du pouvoir, décimer des villages, liquider des individus, s'en prendre à une communauté. C'est ce que nous avons vu. Et ils sont adoubés. Ils agissent au vu et au nez, à la barbe des forces de défense et de sécurité. Nous avons vu le 1er janvier tout un village de Koulion rasé, effacé de la carte du pays. Et le président illégitime, M. Ibrahim Boubacar Keïta, a pris son avion, s'est rendu et avec 10 millions, il a cru devoir effacer ça. Nous exigeons que l'ensemble, que toute la lumière soit faite sur les exécutions, les exactions dans le centre de notre pays. Qui sont ces dozos ? Qui les arme ? Qui les finance ? Qui les entretient ? Ils obéissent à quel agenda ? Quels sont les responsables politiques maliennes ? Les responsables politiques de notre pays qui adoubent ces milices ? Il est important que la vérité...
Il est important pour nous, nous sommes en train d'investiguer et nous avons des éléments. Il est important que toute la lumière soit faite sur ça. Il est important que les services secrets maliens, les services de renseignement de notre pays, disent à la face du peuple qui sont ces dozos, d'où viennent-ils, ils obéissent à quel agenda qui les finance. Si nos services de renseignement sont incapables de le faire, alors qu'ils démissionnent. Parce que les services de renseignement d'un pays, c'est d'abord avoir l'essentiel des informations en ce qui concerne la sécurité du pays. Donc, vous conviendrez avec moi que nous sommes en droit de poser ces questions et d'exiger une enquête internationale qui sera encadrée par la Cour pénale internationale. Parce que le Mali n'est pas en léthargie dans le monde. Le Mali fait partie de grands ensembles. Il faut que ces grands ensembles s'impliquent pour faire l'ensemble, pour faire toute la lumière sur la situation.
D'accord, vous avez parlé de vos droits de manifester, de vos droits de dénoncer, de critiquer, de vos droits de prévenir. Mais est-ce que vos devoirs également d'aller vers ces populations, notamment au centre du pays, échanger avec ces populations qui sont en train de s'affronter, si c'est réellement le cas, ces ethnies qui sont en train de s'affronter?
Eh bien,
si
je vais vous surprendre, M. Touré. Vous le savez très bien, je fais partie de ceux qui se sont insurgés et de façon cinglante contre les exécutions sommaires dont se seraient rendus coupables certains militaires maliens. Cette lutte, Studio Tamani en sait quelque chose. Nous l'avons dénoncé. Nous nous sommes rendus sur le terrain. Nous avons rencontré les responsables de ces communautés. En réalité, il n'y a pas de problème entre les communautés. Les communautés de notre pays vivent ensemble depuis des millénaires. Ils vivent ensemble depuis l'époque médiévale, dans la cohabitation pacifique, dans l'entraide, il y a des liens de mariage. Il n'y a pas de problème entre les communautés. Bien sûr qu'il y a des bandits qui agissent de temps en temps, mais cela n'est pas de nature.
Le problème est entre qui ?
À faire en sorte que il y a une milice, des milices formées qui sont entretenues par certains et qui obéissent à un agenda.
Qui ?
Pour le moment,
qui ?
Nous vous disons par certains, pour le moment, nos investigations ne sont pas terminées. Les investigations sont en cours et les masques vont tomber. Parce que nous disons ceci, à chaque fois que des responsables se sont mis au service de l'étranger et ont agi, ont joué contre leur pays, ils ont fini à la CPI. C'était Jean-Pierre Bemba en République démocratique du Congo. C'était Rambo en Centrafrique. C'est Jean Bosco Ntaganda.
D'accord. Donc, avant de donner la parole à M. Badian, est-ce que vous n'avez pas échoué également dans votre rôle de médiation quand vous êtes parti voir les populations au centre du pays pour les réconcilier et après vous dites vous-même que la situation ne s'est même pas stabilisée?
Non, pas du tout. Pas du tout. Nous sommes allés pour comprendre. Nous ne sommes pas détenteurs du monopole de la violence. Nous n'avons pas sous notre coupe les forces de défense ou la gendarmerie. Nous sommes des citoyens épris de paix et de justice qui, à un moment donné, ont estimé qu'il faut aller comprendre le problème, qu'il faut chercher à comprendre. Mais vous savez ce que les populations vous disent ? Ils ne savent pas d'où viennent ces gens. Ils ne le savent pas. Les Dogons et les Peuls n'ont pas de problème. La deuxième langue des Dogons, c'est le Peul. Vous ne pouvez pas nous dire qu'il y a un problème. Mais des gens cherchent à créer des problèmes. Donc, ils forment des milices, ils forment des gangs, ils forment des gangsters pour attaquer, pour tuer, je ne sais à quelle fin. Je ne sais pas. Mais comme je vous l'ai dit, nous sommes en train d'investiguer et nous sommes en train de rassembler des éléments qui vont surprendre la communauté nationale et internationale.
D'accord. À vous, M. Badian.
Bon, moi, je crois que je vous remercie. Je profite de votre studio pour présenter mes condoléances à tous ceux qui ont perdu leur vie. Ces derniers temps, comme depuis très longtemps, par ces crimes qui a malheureusement, ces criminels qui, malheureusement, on fait énormément de problèmes dans notre pays. Je présente ces condoléances à tout le monde. Moi, je pense que je ne peux pas parler du problème du gouverneur dont parlait mon camarade de l'opposition, Je ne connais pas ce problème-là. Je sais quand même que la situation que nous vivons aujourd'hui dans notre pays exige des prises souvent de responsabilités du gouverneur ou de quelqu'un d'autre. Il faut obligatoirement le faire. On ne peut pas laisser détruire notre pays sous nos yeux, tout simplement en disant « Ah, vous empêchez aux gens d'être libres de leurs actes. » Moi, je crois qu'il faut que nos camarades de l'opposition comprennent que le pouvoir, c'est le pouvoir. Qu'ils acceptent que le président de la République, eux, ne le reconnaissent pas, ça, c'est leur problème. Il reste président de la République du Mali parce qu'il a gagné les élections. On a beau crier jusqu'au bout, le président Ibrahim Boubacar Keïta a gagné les élections et il est président de la République du Mali aujourd'hui. L'Assemblée nationale aussi, c'est la même chose. Nous sommes tous des députés. Les 40 morts qu'il y a eu non loin de Bandiagara. Moi, je revenais d'une mission de la commission défense. On était à Bankas. C'est au retour de Bankas, on a passé par Bandiagara. C'est arrivé à Sévaré qu'on nous a informé que des hommes armés ont fait ce crime dans ce village. Mais avant ce village, il y a eu des massacres à Menaka. Avant ces massacres, il y a eu d'autres massacres. 43 personnes ont été tuées à Menaka. Quelques jours avant, il y a eu 18 qui ont été assassinés. Avant ça, il y avait 60 et quelques. C'est les Dozo qui les ont tués. Qui est responsable de ça? Vous savez, nous sommes dans une situation pour notre pays aujourd'hui qui nous permet au moins, de savoir raison garder. Il faut qu'on soit responsable. Il faut qu'on soit responsable. Parce qu'à entendre certains parler de l'opposition, on a l'impression que ce sont eux qui poussent tous ces crimes-là. Parce qu'il ne sort de la bouche de ceci que, honnêtement, que de la méchanceté. Comment est-ce
donc,
que...
Donc vous pensez que l'opposition est contente de
non,
cette situation?
Non, mais écoutez, l'opposition, si elle n'est pas contente en tout cas, chaque fois qu'elle apprend qu'il y a des morts, oh, on en profite. Pour dire que c'est le pays, c'est le pouvoir que tu... Mais comment est-ce qu'on peut rendre responsable un pays, un président de la République, des ministres, de ce des genres de crimes que connaît notre pays aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut les rendre responsables? Alors que ce n'est pas fait seulement au centre.
D'accord, honorable, mais l'opposition, comme l'a dit M. Balan, est dans son rôle de critiquer,
mais écoutez,
de dénoncer.
Arrêtez,
s'il vous plaît, laissez-moi terminer ma question. Je lui posais également des questions de la même...
Bah là, il va dans le
Je ne vous ai pas retiré la parole, je suis en train juste de vous poser une question. L'opposition est dans son rôle, comme l'a dit M. Balan. Excusez-moi, je vais terminer ma question. De dénoncer. Vous demandez à l'opposition de cesser de dénoncer et de vous aider. Mais est-ce que ce n'est pas votre responsabilité de faire de telle sorte que, je parle de la majorité bien sûr, du président de la République, de faire de telle sorte que l'opposition n'ait pas à dénoncer?
Oui, mais l'opposition, on ne peut pas empêcher à l'opposition de dire qu'il y a des crimes, il y a des assassinats. Mais il y a des assassinats.
D'accord.
Ça, ce n'est caché à personne. Qui n'ont pas commencé aujourd'hui. Ce n'est pas au centre.
Et qui doit résoudre cela?
Oui, mais c'est l'État malien.
Est-ce qu'il le fait?
Oui, mais il le fait. Qu'est-ce que l'État malien n'a pas fait? L'État malien, pour ce qui est du centre, je ne sais pas si lui-même il vous a dit qu'il est parti au centre pour essayer de réconcilier les gens. Les Dogons, combien de fois vous de Tamani, puisque vous êtes studio, vous suivez ce qui se passe dans le pays, combien de fois on a envoyé tout le monde au centre pour réconcilier les gens? Combien de moyens l'État malien a consenti pour mettre l'armée et la sécurité?
Où est le résultat?
Oui, mais le résultat, il y a des morts partout en France. Est-ce qu'il n'y a pas de morts à l'intérieur de Paris? Est-ce qu'il n'y a pas de morts à l'intérieur de l'Allemagne? Est-ce qu'il n'y a pas de morts partout?
Est-ce que ça veut dire que vous devez revoir vos stratégies?
On reconnaît qu'il y a des morts, mais il faut reconnaître que l'État malien met beaucoup de moyens pour lutter contre ces morts. L'État malien le fait, mais vous ne pouvez pas dire à l'État malien, non, puisque toi tu es État malien, il ne faut plus qu'il... Mais dans quel pays du monde aujourd'hui où il n'y a pas les mêmes massacres? Dis-moi dans quel pays où il n'y a pas ce phénomène-là. Surtout que nous sommes au centre du terrorisme, du Sahel. C'est là que ça a commencé, c'est là que ça s'est installé. Amadou Koufa, c'est chez nous qu'il est. Les autres, c'est chez nous qu'ils sont. Combien de temps ils sont en train de s'installer? Mais quand l'opposition n'a d'autre façon d'aider à lutter ou d'apporter quelque chose à la population, que oh, il y a des morts. Mais il y a des morts, Il faut qu'on reste serein si on est responsable. Demain, si Soumaïla Cissé était là, mais il y aura beaucoup plus de morts que ça, parce que c'est le pays qui va être emporté. Il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont. Le peuple malien a accepté de voter Ibeka parce qu'ils savent qu'Ibeka en est capable. Avec Soumaïla Cissé, mais mon Dieu, c'est la perte systématique de notre existence.
Qu'est-ce qui vous prouve cela?
Ah, mais qu'est-ce qui me prouve cela? Qu'est-ce qui leur prouve que tout ce qu'ils disent? Pourquoi vous voulez? Mais parce que je le connais, je le sais.
D'accord.
C'est pour cela qu'on n'a pas voté pour lui. Vous savez, moi, je vous ai dit qu'à 16h, il faut que je sois à mon rendez-vous.
Tout à fait.
Moi, je crois qu'il faut reconnaître, il faut reconnaître que l'État malien fait face à une guerre. Ce n'est pas parce que faire face à une guerre, ceux qui ne l'acceptent pas, mais ça, c'est tant pis pour eux. Nous faisons face à une guerre qui est là, des hommes qui sont autant engagés que l'armée malienne à faire la guerre. Et ils sont prêts à tuer. Et dès qu'ils tuent, ils utilisent nos opposants pour crier davantage, pour que la situation devienne davantage plus grave.
D'accord.
Et l'État malien met les moyens, dans les réconciliations. Il n'y a pas un seul coin au Mali où il n'y a pas de rencontres. Tous les jours que Dieu fait, il y a des rencontres au centre, il y a des rencontres au nord, il y a des rencontres au sud, des femmes, des hommes, toutes les ethnies se retrouvent pour qu'il y ait... Mais qu'est-ce que l'État peut faire que ça?
Vous aurez la parole tout de suite. Monsieur Balan-Diakhaté, il nous reste juste 10 minutes. Monsieur Balan-Diakhaté, à vous.
Alors, moi, je pense que...
Il nous reste 10 minutes.
Non, moi, je pourrais plus rester. Allez-y.
Je pense qu'il faut quand même dépassionner le débat.
Non, mais écoutez,
honorable, accordez-nous 5 minutes pour répondre à ces questions. Poursuivez, monsieur Diakhaté.
Je pense qu'il faut dépassionner le débat. Quand même, à un moment donné, il faut penser effectivement au peuple, il faut penser à la nation. Le débat ne peut pas être centré uniquement entre l'opposition et la majorité. Opposition-majorité, d'accord. À les entendre, finalement, on a l'impression que c'est le Mali, c'est soit l'opposition, soit la majorité. Mais finalement, il y a les citoyens, ceux qui sont victimes de cette crise au centre. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça, d'accord? L'honorable, nous dit qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits, certes, mais il faut admettre également que la constatation d'un fait n'est pas du tout une méchanceté. C'est pas une méchanceté. On constate des faits. En 2012, justement, quand on 2013 plutôt, quand on votait pour le président Ibeka, il y avait certes une situation de crise au nord, mais il n'y avait pas en fait une guerre ou une guerre civile au centre. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas une guerre intercommunautaire au centre. Mais comment est-ce que c'est possible que ce même gouvernement peut faire des efforts depuis 2013 et s'est débrouillé finalement pour se retrouver dans une situation de crise intercommunautaire en 2018? Donc ça veut dire que les efforts qu'ils ont fournis soit sont contre-productifs, soit ce sont des efforts qui sont tout simplement insensés. Là, quelque part, il faut que l'on qu'on mette le doigt sur ça. Maintenant, le fait de le remarquer ou de le constater, pour l'honorable, c'est peut-être une méchanceté, mais pour moi, c'est tout simplement quelque chose de tout à fait normal.
Le comprenez-vous quand il pense que l'opposition est presque contente de cette situation?
Non, l'opposition... Bon, je ne suis pas dans le secret de Dieu pour le savoir, mais je doute très fort que l'on puisse justement être citoyen, appartenir à une nation, porter la nationalité de ce pays, vivre dans ce pays et en même temps se réjouir des malheurs de ce pays. Ça, c'est quelque chose qui relève de l'ordre de la métaphysique pour moi. C'est pas possible. D'accord? Quand l'opposition dit qu'il y a effectivement... L'opposition n'invente pas. Il n'invente pas. Quand il y a justement des mensonges dans les propos de l'opposition, mais le camp adverse, c'est à eux maintenant de fournir les éléments qui vont prouver justement que l'opposition est en train de leur diffamer. D'accord? Là, ça va permettre justement aux citoyens d'être éclairés. D'accord. Mais quand
justement, le citoyen, que ce soit la majorité, que ce soit l'opposition, est-ce que c'est une lutte pour le citoyen ou est-ce une lutte pour le pouvoir?
Alors, quand on est un parti politique, d'accord, et que l'on se range du côté de l'opposition ou que l'on se range du côté de la majorité, on est dans une lutte partisane. On est dans une lutte partisane.
En faveur de qui?
En faveur de son camp. En faveur de son camp.
Devrait-ce être le cas? Est-ce que ça ne devrait pas être une lutte partisane pour le pays?
Ça doit être ainsi. Ça doit être ainsi. Mais il ne faut pas oublier que les partis politiques, ce sont des entreprises politiques. Ils ont des intérêts. Ils ont des objectifs à rechercher. Par contre, ce qui peut être justement une lutte pour le pays ou bien une lutte pour la nation, c'est très généralement, je dis bien très généralement, des luttes lorsque elle n'est pas du tout instrumentalisée, ce sont des luttes de la société civile. C'est lorsque la société civile, elle est responsable, elle est vraiment construite vraiment et bien structurée, lorsque la société civile se lève pour réclamer ses droits, c'est en ce moment justement qu'on peut dire que le pays avance vers...
Est-elle responsable, cette société civile?
Cette société civile, à partir de ce que l'on a vu récemment avec Ante Abana et autres, justement, on peut dire qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments qui peuvent nous permettre de dire que nous sommes en train d'avoir dans notre pays une société civile assez responsable.
Mais Ante Abana, était-ce une société civile, puisqu'il y avait des politiciens là-dedans, il y avait une bonne partie de l'opposition qui était membre de Ante Abana?
Justement, mais il y avait également bien d'autres personnes qui ne faisaient ni partie de l'opposition ni partie de la majorité, mais qui étaient dans le mouvement, tels que des auteurs, tels que des artistes, tels que des simples citoyens, tels que des simples étudiants qui, même de loin, soutenaient effectivement le mouvement. Donc, à partir de là...
Une dernière question avant de revenir. La société civile a-t-elle toujours besoin des politiciens pour les guider, que ce soit la majorité ou l'opposition?
Pas du tout. Pas du tout. Une société civile, c'est d'abord des associations, c'est d'abord un certain nombre de structures qui sont indépendantes, qui normalement doivent avoir des programmes qui sont là justement pour jouer également dans une démocratie un rôle de contrepoids face au pouvoir public.
D'accord.
Et donc à ce niveau, je pense que à notre niveau ou ailleurs, ici ou ailleurs, la société civile ne devrait pas avoir besoin nécessairement des partis politiques pour pouvoir se mettre en mouvement.
D'accord. Noum Sarr, dans votre bilan, vous avez parlé que du négatif. Y a-t-il du positif en 2018?
Mais avant, je regrette que M. Bayan se soit retiré du plateau dans des conditions totalement irrespectueuses de nos téléspectateurs. Mais ceci dit, nous allons poursuivre. Il a indiqué qu'ils étaient en mission. Ce n'est pas vrai. M. Bayan et plusieurs députés de l'Assemblée nationale, sur invitation de Karim Keïta, étaient allés danser avec les militaires, chanter et boire. Pendant qu'ils dansaient à Sévaré, pendant qu'ils chantaient, les dozos ont décimé le village de Koulouyon. C'est ça la responsabilité. Maintenant, on veut nous faire croire que oui, on a déployé des moyens. Il a évoqué les moyens. Où sont ces moyens? On a détourné l'argent du pays. On a détourné les ressources de l'armée. On a volé le peu qui reste de nos ressources. C'est ça. C'est pour ça qu'il est parti. Il n'est pas parti parce qu'il a un rendez-vous. Il est parti parce qu'il sait qu'ils ont volé, parce qu'il sait qu'ils dansaient quand on tuait les gens. Donc je pense qu'il faut d'abord commencer par assumer cela. Bon, je ne vais pas revenir sur
les élections. Est-ce que vous avez vu du positif en 2019?
Très honnêtement, non. Je vous le dis.
Rien de positif.
De façon honnête, quand on décime des villages, quand on pille les ressources du pays, quand on instrumentalise les communautés les unes contre les autres, eh bien, quand on fait régresser les libertés publiques dans notre pays, même si vous faites quelque chose de positif, ça ne se verra pas.
Ça ne se verra pas, mais ce n'est pas visible. Ça existe.
Moi, je vous dis,
est-ce que cela vous réjouit?
Vous savez,
l'opposition.
Mais on ne peut pas se réjouir des morts. On ne peut pas se réjouir de la catastrophe qui se trouve dans le centre et dans le nord du pays. On ne peut pas.
Toute conscience, de sortir pour dire à la population, nous avions raison quand on disait que c'est pas le pouvoir qu'il vous fallait, c'est nous qu'il vous fallait.
Mais est-ce que nous avons même besoin de le dire encore? La population le sait déjà.
Donc vous êtes content de cela?
Non, nous ne sommes pas contents de cela. On ne peut pas se réjouir quand des gens sont tués. Ce n'est pas possible.
notre conscience.
Mais quand le
comme
camp la adverse conscience, échoue,
c'est notre conscience est heurtée par ces massacres. C'est clair. Quand le camp adverse échoue, vous savez.
Je vais mettre ça au conditionnel, et bien sûr, échouerait.
Quand ils échouent, ça nous. Non. Nous, nous savons qu'ils n'ont pas la solution. Nous le savions depuis longtemps. Sinon, on ne serait pas allé aux élections. Et M. Badian, quand vous l'avez posé la question, il a reconnu qu'il y a eu une fraude massive. Il l'a reconnu avant de se rétracter, avant de se défendre de ne l'avoir pas eu, de ne l'avoir pas reconnu. Il y a eu une fraude massive, il l'a dit. Il a dit qu'ils ont fraudé pour Soumaïla Cissé en 2013. C'est lui qui l'a dit ici.
Et mais il dit aussi que si c'était le camp adverse, l'opposition, Soumaïla Cissé, il l'a cité, ça aurait été pire.
Bon, moi, je pense qu'il fallait laisser ça au jugement des Maliens. Pendant 5 ans, nous avons goûté un régime.
Mais qu'est-ce que ça nous a donné. Si c'était vous,
maintenant,
est-ce que l'opposition allait pouvoir changer quelque chose?
Mais l'opposition n'est pas au pouvoir. L'opposition est en train de faire des propositions.
Si c'était le cas.
Non,
si
mais je vous cas, dis, sans être au pouvoir... Mm-hmm. Nous sommes en train de faire des propositions pour impacter, pour changer les choses.
Est-ce que ça a changé quelque chose, ces propositions?
Mais parce que nous avons face à nous des autistes, des gens qui sont atteints d'autisme et de cécité, des gens qui ne croient à rien.
Quand vous le dites comme ça, est-ce que vous ne vexez pas les personnes qui sont victimes de l'autisme parce que c'est une maladie?
Non, je dis autisme politique, c'est au sens figuré. Je ne, loin de moi toute idée de vexer qui que ce soit. Je le dis, c'est une expression d'autisme politique et de cécité politique. Ils sont atteints de cela. Quand ils étaient légitimes en 2018, mais ils n'ont pas pu faire bouger le pays d'un iota. C'est pas aujourd'hui qu'ils sont illégitimes, qu'ils sont issus de la fraude et du bourrage des urnes qui peuvent faire bouger les choses.
Notre d'accord, il nous reste 4 minutes. Il nous reste 4 minutes. Parlons de 2019. Faut-il s'attendre en 2019?
Je pense qu'avant ça, c'est bien de dire à mon frère que le G5 Sahel, il a évoqué des efforts diplomatiques, que le G5 Sahel ne marchera pas. Il le sait en tant qu'expert, parce que la lutte contre le terrorisme, c'est ce qu'on appelle la guerre asymétrique. La guerre asymétrique, c'est une guerre de l'information et de la communication. Le G5 Sahel,
il ne reste plus assez de temps. En 2019, à quoi faut-il s'attendre et quelles sont les propositions de l'opposition?
Eh bien, nous, nous avons dit qu'il faut faire la lumière sur la vérité des urnes. La fraude massive électorale qui a eu lieu dans notre pays, il faudra que les responsabilités soient situées, que ceux qui l'ont fait soient traduits devant les juridictions compétentes. Que toute la lumière soit faite sur ça. Et ensuite, si réforme institutionnelle qu'il doit y avoir, les réformes doivent être l'émanation d'un processus politique de dialogue et de consensus. Mais pour ma part, nous disons que 2018, si dialogue il doit y avoir, si négociation politique il doit y avoir, eh bien, tenez-vous bien, le dialogue doit porter sur les conditions du départ du BK du pouvoir. Parce que son maintien est une voie sans issue pour nous.
D'accord.
Nous le disons, nous insistons, nous persistons et nous signons sur ça.
Balandia Kité.
Oui. Alors je pense qu'en 2019, justement, d'après ce que l'on peut lire dans les journaux et ce que l'on peut entendre par-ci, par-là, en 2019, le Premier ministre se lance de nouveaux défis qui sont ceux de la réforme et puis d'autres projets également. Mais le projet principal, ça reste justement la réforme institutionnelle. Moi, je voudrais tout simplement dire que la réforme, certes, c'est une bonne chose, parce que là, il faut admettre que cette situation de crise nous renvoie à l'idée justement que nos institutions sont dépassées par ce que nous vivons, par les événements. D'accord ? Donc, il faut passer par une réforme institutionnelle pour adapter nos institutions à notre réalité actuelle. Parce que de 1992 à aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Les citoyens sont beaucoup plus éclairés aujourd'hui qu'en 1992. Et donc, les institutions doivent être en phase avec la réalité sociale. Ça, c'est d'une chose. Et la deuxième des choses, justement, c'est à quoi je m'attends en 2019. Ça doit être justement un dialogue. Il faudrait que le gouvernement accepte de dialoguer. Et plus précisément, le président de la République. On voit ce qui se passe actuellement en France. D'accord ? Et il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. Et puis, le président est sorti justement de son silence pour rentrer finalement en dialogue avec les citoyens. Il leur a proposé même un débat national. Et donc notre président également, on attend qu'il fasse de même. D'accord ? Qu'il parle avec les différents couches socio-professionnelles pour que nous puissions vraiment sortir de cette crise qui ne dit pas son nom dans le Sud, mais qui est justement...
Et l'opposition, que doit-elle faire en 2019 ?
L'opposition, je pense que l'opposition doit jouer encore une fois son rôle d'opposition et d'opposant. D'accord ? Je tiens beaucoup à cela parce qu'une démocratie ne peut pas exister sans une opposition. D'accord. Et comme son nom l'indique, c'est une opposition. D'accord ? Si l'opposition ne joue pas son rôle d'opposant, ça va être justement une sorte de consensus.
D'accord. Merci beaucoup, M. Balan Diakité, politologue au Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale CRAP. À Nouhoum Sarr, membre de l'opposition, et au député RPM Bajan Ag Hammatou, qui nous a quittés à la dernière minute. Le débat portait sur quelle analyse de la situation politique au Mali et à quoi faut-il s'attendre en 2019. Merci à tous nos invités et à demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edewani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri. Halo Dumondi.
Chenne Beri. Sigi Kafoba.